comme annoncé, c'est du comment de la prière que nous devons nous occuper plus spécialement cet après-midi. Mais je souligne d'emblée que nous n'allons pas traiter tous les aspects d'un sujet intitulé de manière aussi large. Il y a bien des modalités, des procédures, des avis concernant le comment de la prière que je vais simplement laisser de côté, conformément aux suggestions que j'avais reçues, en tout cas ce que j'ai compris, c'est sur la persévérance dans la prière que je ferai porter l'essentiel de notre étude, et nous lirons deux passages qui concernent plus spécialement ce sujet. Avant de les lire, je voudrais quand même signaler un certain nombre d'éléments qui sont relatifs au comment de la prière, que je laisse de côté, mais que je mentionne, pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on pourrait dire si on développait. Il me semble que ce peut être utile. Il y a toutes les dispositions spirituelles qui accompagnent une prière que Dieu puisse agréer. Et ce matin, il en a déjà été question avec la lecture du deuxième livre des Chroniques, l'accent sur l'humilité et la repentance. Il y a eu toute la leçon de la reprise du Notre Père dans ce sketch qui vient de SketchUp, je crois, hein, qui a été réalisé si efficacement ce matin. Non seulement pour les enfants, mais pour nous tous. Donc cela fait partie du comment de la prière, mais je ne vais pas en parler vraiment davantage. Il y a la question de la posture du corps dans la prière, qui parfois préoccupe certains. Il paraît bien assuré que dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien déjà, l'agenouillement était posture très, très fréquente, très ordinaire dans la prière. L'agenouillement et le prosternement, qui va au-delà, étaient des gestes symboliques très vivants dans les rapports sociaux. C'était des façons de se comporter à l'égard des autres humains et des personnes en autorité en particulier, qui avaient une sorte de naturel. Et on les retrouve donc dans l'attitude de la prière. Et l'apôtre Paul, par exemple, dit au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens qu'il plie les genoux devant le Père duquel toute paternité, patria, tire son nom. Donc c'est une posture ordinaire. Mais ce n'est pas la seule, et il n'y a aucune prescription qui enjoigne de s'y conformer. Dans le second livre de Samuel au chapitre 7, après que David a reçu de Nathan le grand oracle sur la lignée que le Seigneur lui prépare et celui qui régnera éternellement sur son trône, David prie en retour, répond au Seigneur et il nous est dit qu'il s'assit. Littéralement, il s'assit. Alors, les notes dans nos Bibles disent que c'était un privilège royal. Je ne sais pas si on en est tout à fait sûr, mais en tout cas, c'est très plausible. Mais comme nous sommes dans le Seigneur Jésus aussi rois et prêtres, c'est une liberté qui certainement nous est assurée aussi. Dans un commentaire du 19e siècle, mais d'un homme qui était à la fois très érudit et très pieux, que j'estime vraiment beaucoup, un commentaire du livre des Actes par Jean-Édouard Barde, j'ai lu ce renseignement. On prie à genoux dans l'église primitive. Cette posture paraît avoir été habituelle dans la primitive église, sauf le jour du sabbat et pendant 7 semaines entre Pâques et Pentecôte. On priait alors debout. Une information intéressante qui peut être mise en regard d'un verset de l'évangile selon Matthieu, Matthieu 11, 25, où Jésus parlant semble présupposer la position debout pour la prière. Il dit lorsque, en priant, vous vous tenez debout et vous pensez que quelqu'un a quelque chose contre vous, etc. Mais spécifiquement, vous avez le verbe qui signifie se tenir debout, Matthieu 11, 25. Oui, si je ne me suis pas trompé dans ma référence, ça me paraît bizarre. Mais... bon, vous avez donc cette mention de la station debout pour la prière. Je pense que la plupart des lecteurs sont d'accord pour considérer que la méditation du psalmiste sur sa couche pendant les veilles de la nuit, psaume 63, verset 7, comprend la prière. Que généralement, on comprend de cette façon. Ce qui veut dire que toutes les positions semblent légitimes d'après l'Écriture et qu'il n'y a pas à s'imposer une mesure légale à cet égard. C'est la liberté chrétienne. Le Seigneur nous laisse déterminer ce qui conviendra le mieux, selon le temps, selon les circonstances, selon l'humeur où nous nous trouvons, selon tous les facteurs qui peuvent être considérés. Je crois que nous n'avons pas là à nous sentir liés par une position particulière. Ça joue aussi pour la différence entre une prière émise avec les cordes vocales, qui ne sont pas des cordes d'ailleurs, vous savez, émise par la gorge de telle sorte que l'air vibre, et puis la prière qui est simplement dite dans le cœur, que personne n'entend sinon le Seigneur. Là aussi, les deux semblent tout à fait acceptés bibliquement. Et dans le récit dont nous avons lu une partie ce matin, de Genèse 24, j'ai trouvé très intéressant, je l'ai trouvé en travaillant, en me préparant, qu'au verset 45, le serviteur précise qu'il a dit cette prière que nous avons lue, il l'a dit dans son cœur. Donc c'est clairement une prière qui n'a pas été entendue des compagnons qui l'entouraient, une prière qu'il a formulée dans son intériorité et que Dieu a entendue comme telle. Donc de nouveau, grande liberté à ce propos dans notre relation avec le Seigneur. J'en dirai à peu près autant de l'usage de formules déjà composées ou d'improvisation devant Dieu. Vous avez des chrétiens évangéliques qui réagissent très négativement devant l'usage de prières récitées en quelque sorte ou lues. Je crois que rien ne les interdit dans l'Écriture. Il est difficile de savoir l'intention exacte de Jésus lorsqu'il a enseigné le Notre Père. On peut penser que c'est un canevas et qu'il suppose un développement spontané de la part de ceux qui prient. Donc il donne une sorte de formule résumée, mais ce n'est pas simplement une prière à réciter. On peut le supposer, et dans ce sens, il y a un argument, c'est que la version chez Luc, je vous l'ai dit hier, est un peu différente, elle est plus courte, et de toute façon, il n'y a pas la formule dans les plus anciens manuscrits de glorification du Seigneur à la fin qui semble correspondre à ce dont on a besoin quand on récite notre Père. On en sent en quelque sorte le besoin pour que ça passe une fin du tout. Et c'est pour cela que cette formule « C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire » qui vient du livre des Chroniques a été rajoutée dans l'usage de l'Église ancienne. Mais il ne faudrait peut-être quand même pas conclure trop vite que c'est un simple canevas. Les Juifs récitaient quand même des prières, ça, on le sait. Et il me semble qu'il y a une intention de Jésus dans l'enseignement à ses disciples d'une prière très brève, qui est sans doute quatre fois plus courte que la prière habituelle des Juifs, dite des 18 bénédictions, qu'ils récitaient chaque jour et même plusieurs fois par jour. Donc, je pense qu'il y a, parce qu'il vient le dire, ne multipliez pas les paroles, hein, et puis il leur donne une prière brève. Donc, là aussi, aucune interdiction de réciter le Notre Père, ça peut être très très positif, et ne se sentir prisonnier ni d'une règle ni de son inverse. Je crois que ça fait partie de notre liberté de fils et filles du Seigneur. Cela, à propos de la récitation d'une formule comme cette formule suprême, hein, celle que Jésus lui-même a composée pour ses disciples, hein, pas pour lui-même. Jésus n'a jamais eu besoin de dire « Pardonne-nous nos offenses ». Il l'a composé pour ses disciples. Mais il n'y a pas seulement ces prières bibliques. Je pense qu'il y a des prières de l'histoire chrétienne, des prières formulées par des pères de l'Église, des prières contemporaines. Il y a des gens qui ont écrit des livres qui sont très utiles à certains. Moi, je n'accroche pas tellement, je vous avoue, je n'utilise pas vraiment de prière de cette façon, mais je crois qu'il n'y a rien à dire contre ceux qui en utilisent et qui y trouvent une aide dans leur présence, dans la présence du Seigneur, dans leur approche de cette présence du Seigneur. Et puis, encore une remarque avant de lire les textes et de se concentrer sur la persévérance. Le dosage de la diversité des sortes de prières, comme nous l'avons dit, l'action de grâce, la louange, la confession de péché, la confession de foi, la requête, la supplication, l'intercession pour les autres et par rapport à soi, et les moments de silence, tout cela, je pense, est aussi assez libre. Comme le Seigneur conduit, comme nous en sentons davantage le besoin, nous n'avons pas besoin de nous tourmenter si nous ne sommes pas tout à fait dans les mêmes pourcentages que des frères et sœurs qui nous le feraient remarquer. C'est une diversité entièrement légitime. Voilà un certain nombre de remarques que je ne développe pas, qui concernent le comment, mais que je jugeais utile quand même de faire de manière brève. Alors, nous lisons maintenant les deux passages. Le premier passage, donc, est dans l'Évangile, au chapitre 18 de l'Évangile selon Luc. Il s'agit d'une parabole que Jésus lui-même raconte, versets 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Il leur disait, Jésus, à ses disciples, il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il se dit, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait pas justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'il crie vers lui jour et nuit, il les ferait attendre. Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Et puis nous lisons, comme second passage, donc, de l'histoire d'Abraham, de nouveau, mais cette fois au chapitre 18, et versets 17 à 33. Genèse, chapitre 18, versets 17 à 33, ce qui précède donc, c'est le récit de la visite de trois visiteurs surnaturels qui viennent dans le campement d'Abraham qui annonce le miracle de la grossesse à venir de Sarah, et il va se révéler clairement que l'un des trois est le Seigneur lui-même, les deux autres étant des anges qui l'escortent. Les hommes se levèrent pour partir et se tournèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Or le Seigneur avait dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham va devenir une nation grande et forte, et que toutes les nations de la terre se béniront par lui ? Car je l'ai distingué, afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui, de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Ainsi le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. Le Seigneur dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leur péché est si grave, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit ou non, je le saurai. Les hommes repartirent de là pour Sodome. Mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Je ferai une remarque plus tard sur cette clause. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville ? Vas-tu vraiment supprimer ? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu ?» à cause des 50 justes qui s'y trouvent. Jamais tu ne ferais une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, de sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Jamais. Le juge de toute la terre n'agirait-il pas selon l'équité ? Le Seigneur dit, si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à ce lieu tout entier. Abraham reprit, « J'ose te parler, Seigneur, alors que je ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5 ? Pour 5, anéantiras-tu toute la ville ?» Il répondit, « Je ne l'anéantirai pas si j'en trouve là 45. » Abraham continua cependant de lui parler et dit, « Peut-être s'en trouvera-t-il 40 ?» Il répondit, à cause de ces 40-là, je ne ferai rien. Abraham dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. Il répondit, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit, j'ose encore te parler, Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il là 20. Il répondit, à cause de ces 20-là, je n'anéantirai pas. Abraham dit, je t'en prie Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Il répondit, à cause de ces 10-là, je n'anéantirai pas. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham retourna chez lui. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, c'est ta parole que nous venons de lire et d'entendre. Il t'a plu de nous parler, de nous enseigner toi-même par la bouche de tes serviteurs et par la bouche du Fils, notre Seigneur. Nous te demandons de nous ouvrir le cœur, de nous donner l'intelligence par ton esprit qui nous permettra de recevoir pleinement le profit spirituel que tu veux nous communiquer cet après-midi. Veuille nous conduire toi-même dans l'étude, la méditation, la réception de ta parole et sa mise en pratique par la suite. Nous nous confions en ta grâce, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Si Jésus, le Seigneur, a choisi de composer toute une parabole pour montrer qu'il faut prier toujours, sans se lasser, en d'autres mots, qu'il faut persévérer, qu'il faut dans la prière soutenir l'épreuve de la durée, c'est que c'est un sujet très important et qu'il est bon que nous nous concentrions donc sur lui cet après-midi. Alors, Jésus raconte à ce propos une parabole. Et cette parabole, reconnaissons-le, est choquante. Celui qui représente, dans les correspondances entre parabole et réalité spirituelle, celui qui représente Dieu, mais c'est un salopard. Un juge qui n'a aucun souci de Dieu, aucun souci du droit, aucun souci de son prochain, un juge injuste, et c'est dramatique qu'il occupe un tel poste. Dans un pays, lorsque le système judiciaire est gangrené et que les juges jugent à la tête du client selon qu'on les corrompt ou par idéologie, c'est vraiment quelque chose de très très nocif pour tout l'ordre social, pour toute la vie commune des hommes et des femmes. Heureusement, en France, la situation est meilleure, bien qu'il y ait des cas malgré tout, mais il y a des pays où c'est absolument épouvantable. Donc ce juge est un juge repoussant, dur et cruel, et c'est lui que le Seigneur met en correspondance avec Dieu comme juge de toute la terre, comme juge suprême. Bien sûr, il faut comprendre qu'il s'agit d'un raisonnement à plus forte raison, a fortiori, comme on dit. Si un juge aussi repoussant, vil, méprisable que ce juge-là répond finalement à la demande de la pauvre veuve, à combien plus forte raison Dieu qui n'est pas injuste, Dieu qui n'est pas cruel, Dieu qui est pour ses élus celui qui veille sur eux et qui a le souci de leur bien, à combien plus forte raison répondra-t-il si vous persévérez dans la prière? C'est là l'argument que Jésus compose. On pourrait dire que la certitude que Dieu va répondre, si nous persévérons dans la prière, est multipliée par l'écart moral entre ce mauvais juge et Dieu, comme le juge et père miséricordieux. C'est comme ça qu'il faut prendre la construction de la parabole, ce n'est pas douteux. C'est justement parce que ce juge est si mauvais que le fait qu'au bout du compte, il cède à la prière persévérante de la femme nous rend sûr, d'autant plus sûr, que Dieu répondra. Mais j'ai comme l'intuition, alors l'intuition, ça peut être trompeur, hein. je ne le nie pas, mais j'ai l'intuition que si Jésus a choisi cette manière qui d'abord choque de nous parler de la persévérance dans la prière, c'est qu'il a une autre idée derrière la tête, c'est qu'il sait que notre tentation, la tentation que souvent nous n'osons pas nous avouer à nous-mêmes, dont nous censurons en nous-mêmes l'émergence et nous la refoulons, notre tentation, c'est d'imaginer Dieu comme un juge injuste, assez semblable à ce juge salopard. C'est la tentation, parce que ses élus, ses choisis, crient à lui jour et nuit, l'implorent de les délivrer, de les soulager dans leur souffrance. Et ça dure, ça dure, ça dure. Il ne répond pas. Il les fait attendre. Alors, dans le texte, on peut comprendre, et les versions du Nouveau Testament choisissent l'un ou l'autre, je pourrais vous dire lesquelles, mais je ne sais pas la peine. Soit il les fait attendre, comme une affirmation, soit comme une question, et il les ferait attendre, comme nous avons lu dans la NBS. C'est peut-être toute l'ambiguïté. Il est sûr que l'expérience de beaucoup de chrétiens, c'est que Dieu a l'air de tarder beaucoup, et de ne pas s'occuper de ces enfants même qui sont dans la souffrance, persécutés. Vous avez des chrétiens aujourd'hui dans le monde qui sont persécutés de manière atroce, et ça dure. D'où la tentation de dire finalement, Dieu ne s'en préoccupe pas. Finalement, Dieu est comme ce juge. Et Jésus choisit donc de contraster ce juge avec le Dieu qui est notre Père, en suscitant ce contraste et en nous assurant que Dieu fera promptement justice, que Dieu délivrera les siens. Il faut persévérer, prier toujours sans se lasser. Il écrit la parabole pour... Il raconte la parabole pour cela, mais avec l'assurance que Dieu fera promptement justice. C'est l'horloge de Dieu, hein, ce promptement. C'est ça ce qui nous est difficile. Ce qui nous paraît nous durer, pour lui, reste encore dans les limites du promptement. Mais l'assurance que nous pouvons avoir, c'est que il s'en préoccupe, que s'il retient son bras de l'action punitive contre les scélérats et les oppresseurs, c'est parce qu'il a un dessein d'amour meilleur et qu'il veut le mener jusqu'à bonne fin. C'est cela que Jésus nous demande de croire. Mais le vrai problème n'est pas, non, finalement, que Dieu tarde. Le vrai problème, Jésus le dit à la fin, c'est la pointe de la parabole. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là qu'est le problème. Est-ce que nous... La prière est vraiment la prière de la foi, qui alors même que nous ne voyons pas, demeure ferme dans l'adhésion à Dieu, dans la confiance qui lui est faite. Marcher par la foi et non par la vue. C'est là le vrai problème en cause, me semble-t-il. Et puis dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 3, il y a reprise de ce thème avec une mention supplémentaire qui, je crois, est très utile. C'est presque les mêmes mots que dans cette parabole. Je pense que Pierre a pensé à cette parabole. Il dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais qu'il use de patience ou qu'il fait attendre. C'est le même mot. Il fait attendre, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est son dessein de salut pour d'autres aussi qui est en cause. Si Dieu ne met pas un terme à toutes les atrocités, toutes les horreurs, et qui affiche ses enfants dans le cours de l'histoire, c'est qu'il a un dessein de salut pour un grand nombre encore. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Pour être sauvé, il faut la foi. Or, si Dieu met un terme à l'histoire en rendant ses jugements visibles, c'est plus la foi, c'est la vue, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de salut. Et donc Dieu semble tarder, même quand ses élus crient à lui jour et nuit, parce qu'il a un dessein de salut qui en embrasse d'autres. Je pense que nous pouvons nous dire que c'est parce que, avant nous, des chrétiens ont persévéré dans la prière, ont subi longtemps des traitements extrêmement pénibles, peut-être jusqu'à la mort, que nous avons pu être touchés par l'Évangile, que nous avons pu accéder au salut, à la connaissance de Jésus et de notre Père en lui. Donc, voilà la perspective que la Bible nous propose à propos de cette persévérance nécessaire. Mais il faut encore essayer de creuser le sens de la sagesse de Dieu qui ordonne les choses de cette façon. Alors nous avons souligné hier en particulier, mais encore un peu ce matin, qu'il y a une pédagogie de Dieu qui nous forme par le moyen de la prière. Et ça nous permet déjà de comprendre que le temps est nécessaire. Nous avons besoin pour changer dans les conditions terrestres de notre vie, en tout cas d'un certain nombre de jours, de temps. Il y a certains changements, par exemple, d'après ce que je dis, assez expérimentés, par exemple, à propos d'habitudes dont on veut se défaire, qui prennent 100 jours. Il faut tenir bon pendant 100 jours, après ça, ça va. Mais nous sommes des créatures telles que nous avons besoin de temps, et cela joue dans cette nécessité de l'épreuve de la durée pour la prière. Mais il me semble que nous devons discerner encore d'autres motifs. L'efficacité de la prière, nous l'avons dit, c'est que Dieu est touché par la demande que nous formulons. Il voit que nous voulons quelque chose et comme il nous aime, si c'est le meilleur pour nous, il nous le donne. Parce qu'il voit que nous le voulons. Oui, mais que de fois, nous ne voulons qu'à moitié. Le problème de la velléité au lieu de la volonté est un problème, en tout cas, moi je m'en rends compte dans mon propre cas, est un problème qui est un problème sérieux de la vie chrétienne. Oui, nous voudrions. J'aimerais bien être comme ça, mais ce n'est pas nous voulons. Et la persévérance dans la prière permet à ce vouloir de se fortifier et permet la démonstration que nous le voulons vraiment. Si nous le demandons une fois comme ça, ça peut être une simple velléité. Si nous voulions ce que nous voulons. C'est-à-dire aussi si nous pensions tout ce que nous pensons, si nous croyons ce que nous croyons. La superficialité qui nous est une tentation si facile, la persévérance dans la prière a pour mission de la combattre. La persévérance permet d'approfondir, la persévérance permet de donner de la force, de la solidité à la demande que nous faisons à Dieu, et c'est ainsi que Dieu est touché et qu'il nous donne, si c'est le meilleur, ce que nous avons demandé. Le fait aussi qu'il y ait une promesse spéciale pour deux ou trois qui se mettent d'accord, et plus que deux ou trois aussi, ce n'est pas limitatif. C'est aussi le même principe. Dieu est heureux de voir ses enfants qui s'accordent pour lui demander quelque chose. Tous les parents le savent, surtout ceux qui ont plusieurs enfants, quand les enfants s'accordent pour demander quelque chose, ah, ça fait plaisir, alors qu'ils ont tendance si souvent à se chamailler. Et c'est vrai des chrétiens aussi. Et Dieu est heureux quand les enfants s'accordent, et s'accordent dans la durée, avec donc cette persévérance qui montre que c'est un vrai vouloir. La persévérance dans la prière est une démonstration que nous croyons vraiment en un Dieu qui, malgré les apparences, brûle d'amour pour ses élus, brûle d'amour pour ses enfants, et ne tarde en apparence à leur faire justice que parce qu'il a un dessein encore plus beau et plein d'amour à exécuter. Il y a encore un chapitre. Celui qui concerne la juste mesure en l'affaire. Et c'est très délicat, c'est assez subtil. Mais je crois quand même que, pour vous présenter ce que je crois avoir discerné de la parole de Dieu, j'ai à vous en parler. La juste mesure. Les humains sont des êtres de mesure. Pour tout ce qui fait notre vie, il ne faut pas de trop ni de trop peu. Il y a une juste mesure qui nous est nécessaire. Il n'y a pas d'aliments bienfaisants qui ne deviennent toxiques si nous en prenons trop. Savez-vous quelle est la dose létale, c'est-à-dire mortelle, létale du sel de cuisine, du simple sel? 225 grammes. Si vous absorbez d'un coup 225 grammes de sel, vous êtes bon pour le cimetière. Parce que nous sommes des êtres de mesure. Cela vaut donc physiquement, et cela vaut pour tous les niveaux de la personnalité humaine. Et en ce qui concerne la persévérance dans la prière, la question de la mesure se pose. Y a-t-il une juste mesure? Y a-t-il un point à partir duquel ce n'est plus de la persévérance, mais de l'entêtement trop humain, par exemple? Ce n'est pas facile de le régler à l'avance, mais je crois que la question doit être posée et que c'est un point très important de l'intercession d'Abraham. Ce passage est magnifique. Abraham est un exemple admirable d'intercession. Son audace pleine de déférence. Il sait qu'il n'est que poudre et cendre, hein, c'est un jeu de mots d'ailleurs dans l'hébreu, ça. Il n'est que poudre et cendre, poussière et cendre, devant le Seigneur de toute la terre. Mais il s'appuie sur ce que Dieu a révélé de lui-même. Dieu parle lui-même de la voix du Seigneur comme de justice et d'équité dans les premiers versets que nous avons lus. Il s'appuie là-dessus pour dire, mais voilà, le juge de la terre n'agira-t-il pas selon l'équité? Fera-t-il périr le juste avec le méchant? Et il intercède pour Sodome en se basant sur ce que Dieu a révélé de lui-même. C'est magnifique. Et je pense qu'il a discerné que c'était l'intention de Dieu au départ. Si Dieu est resté seul avec lui, alors que les deux anges sont partis pour Sodome, pourquoi? Je dirais, c'est cousu de fil blanc ou de fil d'or. Dieu prépare en quelque sorte une intervention d'Abraham en disant, je ne vais pas lui cacher ce que je vais faire, je l'ai choisi, il sera très important dans mon plan. C'est comme pour dire, voilà, Abraham peut prendre une initiative. Abraham est dans un tel rapport avec moi qu'il peut avoir cette audace de confiance. Et c'est là que se situe aussi la petite clause dont je vous ai dit que je la commenterai. Le texte qui traduit le texte que nous avons dit « Et Abraham se tint en présence de l'Éternel » ou de Yahvé, du Seigneur. Mais il y a une note des scribes, de ceux qui ont recopié le texte, qui dit « C'est pas comme ça dans le manuscrit que nous recopions. » Seulement pour la lecture dans la synagogue, ce qu'il y a dans ce manuscrit que nous recopions, non, pour nous ça passe pas. Alors nous changeons. Alors ce n'est pas une fraude, puisqu'il le signale en note, justement. Ça s'appelle une tikkun sofrim en hébreu. Ça. Il y en a quelques-unes dans l'Ancien Testament. Que disait le texte qu'il recopiait, dont ils reconnaissent que c'est le vrai original, hein? C'est l'Éternel se tint en présence d'Abraham. Ils ont permuté les termes. Pourquoi ont-ils permuté les termes? Parce que se tenir en présence d'eux, normalement, c'est le serviteur devant le roi, le Seigneur. Se tenir devant, c'était dans la situation du serviteur qui va prendre les ordres de son supérieur. Alors dire l'Éternel, Yahvé, se tint en présence d'Abraham, c'est comme donner à Abraham la position du supérieur et à Dieu celle du subordonné. Non, on ne peut pas lire ça dans la synagogue. Alors, ils ont changé, ils ont inversé, et bien, en mettant une note pour être honnête. Je trouve que c'est très significatif. C'est significatif, pour moi c'est un modèle, du sens qu'avaient les scribes de la majesté de Dieu. Et je trouve que nous aurions besoin souvent d'en prendre de la graine. Et ils ont un sens de ce qui peut se dire du Dieu suprême, Seigneur des Seigneurs. Mais c'est aussi très significatif si l'on considère ce qui était dit au départ. Oui, en un sens, Dieu condescend à se mettre comme à la disposition d'Abraham. Il reste avec lui, il souligne tout l'honneur qu'il veut faire à Abraham, et c'est comme s'il invitait Abraham à prononcer cette prière d'intercession. Et je pense qu'Abraham, qui était un homme de Dieu, l'a bien senti, que ça lui a donné l'audace de cette prière qui a été la sienne. Et donc, il intercède, et ça ressemble presque à un marchandage, bien qu'il n'y ait rien à offrir en échange. Mais il s'arrête à 10. Et 10, c'était plus que ce qu'il y avait de juste à Sodome. De telle sorte que Sodome a été détruite. Alors, a-t-il eu tort? Aurait-il dû continuer? Et après dire 5 et 2, etc. Ou bien a-t-il eu raison? A-t-il atteint la juste mesure en s'arrêtant à 10? Vous avez certaines personnes qui ont critiqué Abraham en disant qu'il aurait dû aller plus loin. Moi, je pense que c'est très risqué de critiquer Abraham. C'est téméraire et même peut-être un peu arrogant. En tout cas, moi, je ne me sens pas la liberté de le faire. Je pense qu'Abraham nous est présenté là vraiment comme le père dans la foi. Alors, je pense que c'est un modèle aussi quant à la juste mesure. Il a senti de manière qui était un discernement authentique qu'il devait s'arrêter à 10. Que pour plaire à Dieu, c'était la juste limite. Et il me semble que nous avons à cultiver une sensibilité spirituelle qui correspond à celle qu'Abraham démontre dans cet épisode. De toute façon, dans les prières, pour moi, ça compte en tout cas vraiment beaucoup. Nous avons à chercher les signes d'encouragement, d'orientation de Dieu. Moi, je prie depuis des années, et puis je n'ai pas encore fait pour la conversion d'une jeune femme qui a bénéficié de signes tellement extraordinaires de Dieu il y a maintenant plusieurs années, mais sans se convertir, mais que je suis persuadé que le Seigneur veut agir dans sa vie. Donc voilà, je considère que c'est une indication du Seigneur qu'il faut que je prie. Que là, je prie vraiment selon la volonté de Dieu. Et donc, vous voyez, je cherche des signes et des encouragements de cette sorte. Et de même, le signal que là, la limite est atteinte, qu'il ne faut pas s'entêter au-delà. C'est une affaire de discernement risquée, mais nous sommes appelés au discernement. Donc, il me semble que nous pouvons affirmer, à propos de la persévérance, qu'elle joue subtilement, c'est pas un principe mécanique à isoler, qu'elle joue dans le rapport avec Dieu, selon qu'il suscite en nous par son esprit l'incitation à prier encore, ou au contraire, nous révèle secrètement, peut-être que nous nous trompons, mais je pense que souvent c'est bien ça, que là, Dieu a un autre plan, que nous n'avons pas à cramponner indéfiniment. Vous voyez, de quelle façon, je pense qu'on peut dire, que se déroule le cheminement de la prière. Alors nous nous sentons très, très inaptes, hein, très démunis devant un tel défi. Mais, là, je le rappelle, nous avons commencé par là hier, nous ne savons pas prier comme il faut. Ce sentiment d'être démuni devant tout ce qu'il faudrait pour être vraiment un modèle dans la prière, ce sentiment, et nous faisons bien de l'éprouver. Il correspond à la réalité que l'apôtre Paul confessait même pour lui. Nous ne savons pas, non, non. Mais l'Esprit. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit, non seulement suscite en nous la prière selon Dieu, nous donne des indications subtiles de ci, de là, que nous devons persévérer, ou que peut-être la limite est atteinte. L'Esprit est là pour donner à notre persévérance l'énergie qu'il lui faut, mais l'Esprit en plus prie avec nous. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Dieu prie Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, se met de notre côté et il prie le Père. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve à la fin de l'Apocalypse. Hein. L'Esprit et l'Épouse, l'Église, prient ensemble. Viens, Seigneur Jésus. L'Esprit se met de notre côté. Il nous est donné à tel point qu'il est uni à notre propre esprit et qu'il prie avec nous, qu'il sur-intercède. L'apôtre Paul a mis le préfixe « sur » en plus du verbe « intercéder ». Il sur-intercède, son intercession, en quelque sorte, englobe la nôtre, la prend en charge et en répare tous les défauts, en comble les déficits. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. Amen. Voilà, alors je ne sais pas si le président veut un intermède ou quoi, mais autrement, nous avons un temps pour les questions. Je pense que, oui, j'en ai laissé assez.
Oui, je pense qu'on peut laisser, il y en a probablement. Ce qui a été dit également ce matin, il y avait l'occasion de l'élection ce matin et cet après-midi.
Moi, je veux bien poser une question par rapport à ce matin. Je ne suis pas sûr de bien avoir compris, en fait. À un moment, vous avez dit que les prières n'étaient pas comme des lasers, n'étaient pas comme... Et en fait, ça m'a interpellé parce qu'on a quand même beaucoup de chants qui nous aident à proclamer qu'on a la victoire sur l'ennemi. Il y a des versets qui nous disent qu'on peut, écraser l'ennemi dans le nom de Jésus. Donc, c'est toujours Dieu qui agit. Hein. Mais, et donc, pour moi, moi, je vois certaines formes de prières qui sont justement... parce que je sais que l'ennemi, il est là, tapis, il est assis là ou là. Et il se frotte les mains si on perd la foi, il se frotte les mains si on n'adore pas complètement. Et je pense que pour moi, enfin moi c'est ce que je ressens, alors j'ai mal compris, mais moi je pense qu'il y a des prières, c'est des coups de laser qu'on envoie au diable pour lui dire que je suis enfant de Dieu, et tu ne m'auras pas comme ça, tu me fous la galère dans ma vie, mais je continuerai à adorer Dieu. Et ça je pense que c'est des lasers qu'il prend dans nos louanges, ou enfin, c'est pour ça que j'ai pas compris. Pour moi, c'est ennuyeux, quoi.
Je pense que vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire, mais qu'il y a une certaine divergence entre chrétiens évangéliques sur ce point. Et moi, je vais du côté, si vous voulez, de dire que ce n'est pas de la prière. Alors, comme je l'ai signalé à un autre moment, je crois qu'il y a une délégation d'autorité avec la capacité de chasser des esprits impurs et de répliquer au diable, résister au diable, il fuira loin de vous. Mais je dis ça, c'est pas la prière, c'est un exercice d'autorité spirituelle que le Seigneur donne. Et puis j'ai averti donc sur les dangers associés, mais ça ne l'abus n'abolit pas l'usage éventuel, voilà. Mais j'ai dit c'est pas la prière. Et ce que j'ai voulu combattre, c'est la confusion de cela avec la prière. Alors, même avec cette délégation d'autorité, cette émission de raison laser, si vous voulez, je pense que ce serait une assez mauvaise image malgré tout. Je ne vois pas que nous combattions de cette manière directe les esprits mauvais. Alors... C'est vrai que résister au diable, lui dire que l'Éternel, que le Seigneur te réprime, parce qu'il s'agit. Jude nous avertit contre une façon insultante, méprisante, où nous nous élèverions de répliquer même aux esprits mauvais. Hein. Mais lui dire ça, oui, c'est possible. Mais la victoire, quand même, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est comment la victoire est-elle remportée d'après le chapitre 12 de l'Apocalypse. Ceux qui ont remporté la victoire sur le dragon, sur le diable, le serpent ancien, par le sang de l'agneau et le témoignage de Jésus. C'est par là, c'est pas une émission d'énergie spirituelle comme, qu'on pourrait comparer à un rayon laser, vous voyez. C'est être couvert par le sang de Jésus, se réclamer du sang de Jésus. C'est ce qui met en déroute le diable et toute son armée. Et donc, voilà comment je perçois les choses juridiquement. Je reconnais qu'il y a des chrétiens évangéliques qui parlent un peu autrement que moi. Sur le sujet.
Merci. Mmh. Est-ce qu'on peut penser qu'Abraham s'est arrêté à Nice parce qu'il pensait à Lot qui était à Nice?
Alors, je me le suis demandé en préparant, mais je n'ai pas fait la recherche. Mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à 10? Je me suis dit, il faudrait que je vois combien Lot avait d'enfants, mais est-ce que nous pouvons savoir, parce qu'on a plus des deux filles. Et donc, je n'ai pas été plus loin. Peut-être s'est-il dit, oui, avec les gendres, etc., avec 10, ça ira. Mais quand même, ça fait un peu juste par rapport à la famille de Lot. Et alors, je fais encore une remarque que je n'ai pas faite tout à l'heure. Dieu, donc, a détruit la ville, mais il a quand même sauvé Lot et ses filles. Hein. Il n'a pas fait périr le juste avec le méchant. Donc, par rapport à ce point d'appui qu'Abraham avait trouvé dans la révélation par Dieu de sa justice, Abraham n'a pas été démenti. C'est aussi une beauté de cette histoire.
Menace, et dans ce cas-là, elle peut intervenir pour nous. Dans notre image de l'homme, on peut percevoir ça comme un laser.
Alors, pour moi, ça ne ressemble pas à un laser, mais bon, on peut discuter des métaphores dont on se sert. La prière est dirigée vers Dieu. Elle demande à Dieu. C'est Dieu qui agit, qui éventuellement donnera. Une puissance particulière pour un dessein précis à un individu, mais la prière elle-même, elle est dirigée vers Dieu, elle va vers Dieu comme le rayon de lumière, il a un but, et la prière a un but, c'est Dieu. Voilà le point sur lequel j'insiste et qui fait que je critique l'image d'un rayon laser qui viserait les puissances ennemies et qui aurait une fonction de destruction directe.
Oui. Parce que c'est peut-être le contre-exemple, peut-être les traditions asiatiques, dans les méditations, ceux qui envoient quelque chose sur d'autres personnes, par exemple, en expirant, souvent en expirant dans la méditation, il y a des méditations où les gens envoient une bénédiction à d'autres personnes par leur propre expiration.
C'est ce dont je me méfie. Oui, pour moi, ça fait partie d'un environnement païen, des notions de prière dans bien des religions du monde et à des régions du monde, et c'est de ça que je me méfie.
Thank you.
Moi, je ne vois rien dans le psaume 91 qui suggère que la prière serait dirigée comme une arme à l'égard de l'ennemi, face à l'ennemi. Je vois une promesse de, précisément de celui qui se confie dans le Tout-Puissant, qui est, demeure à son ombre, donc qui envoie ses anges pour porter les siens. Je ne vois nulle part que la prière soit, vous voyez, on revient à cette image, il faut peut-être pas lui donner trop d'importance, mais de rayon laser. Parlez bien fort, s'il vous plaît, parce que j'ai une vieille oreille.
Par rapport à l'ennemi, moi, je parlais plutôt du malin, je dirais le tentateur, en fait. Oui. Je parlais pas des ennemis, en fait.
Je crois que ce n'est pas de la prière si nous résistons au diable. J'appelle pas ça de la prière.
C'est peut-être la prière qui induit une transformation de soi-même, oui, qui permet de résister au diable. En fait, par contre, oui, je disais bien que la prière transforme.
Oui, oui, oui. Ah oui.
En fait, la transformation de soi-même, mm-hmm, mais c'est pas quelque chose qu'on envoie au diable. C'est de nous transforme, oui, pour nous permettre, nous, de résister au diable.
Voilà, oui, oui, oui. Je n'ai pas du tout voulu exclure que nous ayons à résister au diable, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Mais je dis, c'est pas la prière. Mais c'est peut-être un effet de la prière, puisque la prière est un instrument dont Dieu se sert pour nous former.
Moi, je pense que ça doit être certainement une déformation de chrétien, de penser que le fait de nous de prier contre l'ennemi, et s'il se passe quelque chose, peut-être que c'est la déformation du chrétien de se dire c'est parce que j'ai prié et que j'ai vu le résultat. Mais on oublie que notre prière, elle doit, comme vous disiez, elle monte, et c'est l'action de Dieu ensuite qui fait qu'il y a un résultat. Mais en fait, on se mélange un peu tout ça dans notre tête en se disant j'ai prié, j'ai lancé mes lasers, mais en fait, la prière est d'abord montée, et Dieu a agi. Oui. Donc je pense que c'est un peu...
Ah oui, vous avez tout à fait compris ce que j'essaye de communiquer. Oui. Merci.
J'apprends dans le même sens que notre sœur Pauline, parce qu'il faut définir la notion de prière, un essai de définition. La prière, c'est un privilège de pouvoir parler avec Dieu, avec la liberté de fils devant son père, avec de l'enfant devant son père. On ne prie pas Dieu pour... on prie Dieu parce qu'il faut, il le faut. On prie parce qu'on a besoin que Dieu nous aide, que l'Esprit nous aide. On a besoin de nous approcher de Dieu. Aussi, en lisant sa parole et en priant, ça permet cette relation d'aller-retour entre la personne qui prie et Dieu. Mais après, la protection, tout ce qui va avec, ça c'est l'affaire de Dieu, c'est pas notre affaire. Donc, c'est Dieu qui s'en charge. Le reste, nous... simplement, Dieu est le centre de nos prières. Quand on prie, donc, l'exemple a été montré par Jésus dans la prière dans le Notre Père. Donc, on s'adresse d'abord à Dieu, on cherche d'abord la gloire de Dieu dans nos prières, et ensuite, on lui demande ce dont on a besoin. Donc, notre prière s'adresse à Dieu, on n'adresse pas des prières à Dieu contre l'ennemi, contre qui que ce soit. On adresse notre prière à Dieu pour lui parler, mais après, qu'il nous protège de nos ennemis, ça c'est... c'est du ressort de Dieu, pas du nôtre.
Oui, c'est lui qui le fait. Je signale d'ailleurs que je suis persuadé que la dernière clause du Notre Père vise le diable. C'est délivre-nous du mal ou du malin, avec majuscule, ou du mauvais, comme dit la MBS, qui a choisi ce mot peut-être moins historique. Mais je suis assez persuadé que c'est la personne ou la quasi-personne du malin qui est ici en cause. C'est de lui que nous prions le Seigneur de nous délivrer.
Moi, je trouve un truc intéressant, ce que vous avez dit, c'est par rapport à tout cet aspect. Ce matin, c'était sur le fait que la prière, c'est pas la ferveur, Voilà. Ça veut dire que c'est notre bienveillance, c'est cette notion de mesure qui va un peu avec cet aspect. Ce qui fait quand souvent on dit, ah ouais, bon, on se culpabilise derrière, je ne prie pas avec ferveur, je ne prie pas avec persévérance, alors qu'on oublie en fait, ça reste uniquement dans une attitude finalement pas active, tout ça. Mm-hmm. Alors vous parliez que la prière ce matin avait, en contrario à la ferveur, il y avait une quelque chose d'actif, c'est pas juste. Mm-hmm. Voilà. Mmh. C'est actif qu'on trouve dans la mesure un petit peu parce que vous parlez des signes qu'on doit découvrir. Mmh. Enfin, tout ça, ça va un peu ensemble, c'est intéressant parce que ça va quand même beaucoup à l'encontre de notre propre culpabilité qui pousse à aller vers la ferveur et vers. Et à oublier cette notion active. Quoi. Mmh.
La fausse culpabilisation, c'est, je pense, en effet, un écueil dans la vie chrétienne de pas mal de chrétiens évangéliques aujourd'hui. La fausse culpabilisation, généralement, cachant une vraie culpabilité. C'est aussi un artifice très charnel, mais remettre certaines choses vraiment droit dans notre vie, ça nous coûterait bien davantage que de nous sentir coupables pour des choses qui, finalement, ne sont pas jugées coupable par Dieu. Ça je crois que vous avez prononcé le mot de culpabilisation, c'est ce qui me conduit à faire cette remarque.
Je pense que c'est ce matin, nous l'avons vu, le livre de Jacques, et à un moment donné, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, comment savoir, lorsqu'on ne reçoit pas, la distinction entre on n'a pas discerné qu'on avait atteint la mesure, ou on n'a pas discerné qu'on demandait mal.
Alors dans le cas de Jacques, hein, c'est au début du quatrième chapitre, il dit, précise bien, c'est en vue de satisfaire vos désirs, vos passions. Donc là, il ne fait pas être si difficile de discerner. Mais c'est vrai que dans la tortuosité du cœur humain, qui peut le connaître? Dieu seul, sans les rêves du cœur. Nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. C'est vrai qu'il peut y avoir des motifs de prière qui sont des motifs qui ne sont pas saints mais que nous ne discernons pas comme tels d'emblée. C'est quand même un ordre aussi du Nouveau Testament. Examinez-vous vous-même. L'examen de conscience, c'était très très classique dans le christianisme d'autrefois. Je crois que ça se pratique très peu aujourd'hui. C'est quand même une injonction qu'on a dans les épîtres. Examinez-vous vous-même. Et nous pouvons donc demander à Dieu de nous éclairer sur nos motifs, en particulier si en effet il ne répond pas comme nous le souhaitions, pour voir si il y a par exemple, un désir de notre propre gloire, hein, dans la vie d'église, par exemple. Ça peut être un motif de prière. Et ça peut corrompre une prière que nous formons. Mais je suis persuadé que le Seigneur, d'une part, veut nous faire progresser à cet égard, et que notre prière étant toujours imparfaite, elle reste imparfaite, nous ne savons pas prier comme il faut. Nous n'avons pas non plus à nous laisser paralyser par cette pensée. Nous devons faire confiance à l'esprit qui se charge de notre prière, selon le texte de Romains 8.
La prière sans la puissance du Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons avoir la force de prier? Et est-ce que notre prière peut être efficace sans le Saint-Esprit?
Je pense que fondamentalement, il n'y a rien qui viennent de nous, hors de l'esprit, sans l'esprit qui soit de quelque valeur devant Dieu. Donc si une prière est authentique, l'esprit l'a suscité. Et c'est de manière générale, hein, que nous sommes exhortés à prier par l'esprit. Si nous prions, c'est par l'esprit, quoi. Qui est l'esprit de Jésus. Donc prier au nom de Jésus et prier par l'esprit de Jésus, ça revient au même, au bout du compte, hein. Mais je crois que c'est le verset 18, je ne suis plus tout à fait sûr, de Jude, qui dit « prier par l'Esprit ».
Deux dernières questions là.
Et une question là, tout au fond là aussi. Alors, il me semble tout à fait qu'il n'y a aucune raison de privilégier juste l'instant présent. Dieu travaille dans la durée comme il travaille aussi dans l'instant quand il le veut, mais donner un privilège à l'instantané, ça, je ne vois aucune raison biblique de le faire. Si, je pense que rien n'empêche, c'est comme pour une prédication, hein, un sermon qui est une forme, en tout cas le plus souvent, de prophétie au sens du Nouveau Testament, prophétie dans l'Église. Ce n'est pas plus spirituel si on n'a rien préparé, qu'on arrive dans la chair ou derrière le pupitre. Le Saint-Esprit travaille dans la préparation pour nous permettre de dire ce que Dieu veut que nous disions. Il y a une vieille histoire, elle est peut-être apocryphe, hein, mais voilà, de quelqu'un qui s'imaginait qu'il fallait une inspiration instantanée, donc il monte dans la chair, et qu'est-ce que lui dit le Seigneur? Il lui dit, eh bien, Joseph, tu es un paresseux.
Voilà. Vraiment, deux dernières questions, après, pour suivre le reste du programme, et je pense que M. Blocher sera encore disponible pour répondre à d'autres questions, pas dire
individuelles. Permettez-moi de revenir un peu sur la question de Laurent. J'espère avoir bien compris. Et on est peut-être en train de remettre en question la prière dite de combat spirituel. Je ne sais pas si c'est une remise en question, parce que ceux qui le font s'inspirent généralement des actions de Jésus quand il menace les démons. Et ils s'inspirent, moi je crois qu'ils s'inspirent de cela. Et quand il y a même cette prière de combat spirituel pour chasser l'esprit malade, c'est pas au nom d'un homme, c'est au nom de Jésus qu'on prie. Et je crois que c'est sur l'imitation de Jésus. Je ne sais pas si ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une remise en cause de cette prière.
Alors, c'est possible, mais moi je ne connais pas assez ni la théorie ni la pratique de la prière de combat spirituel, comme vous venez d'en donner le nom, pour vraiment me prononcer sur ce point. J'ai essayé de dire ce que je crois biblique, mais si vous connaissez mieux ce qu'on appelle de cette expression, vous pouvez voir si je suis dans la ligne ou pas, vous voyez, mais moi je ne connais pas assez pour me prononcer. Mais ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Jésus ne menace pas les démons. Il ne prie pas quand il menace les démons.
On peut le faire comme Jésus l'a fait.
Ah oui. Ça, j'ai parlé. Alors, je ne traite pas de toutes les conditions, etc. Mais j'ai bien dit, à plusieurs reprises même, qu'il y a une délégation d'autorité, en particulier pour l'exorcisme, et que Dieu, donc. Mais que ce n'est pas la prière, c'était ça mon accent.
Dernière question de Gabriel, là, on va s'arrêter.
Alors, en fait, c'est pas une question, c'est extrêmement basique, et en fait, c'est juste un remerciement. Alors, moi, je sais que dans ma vie de prière, ce qui me manque, effectivement, c'est la persévérance et la constance. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir abordé cette question qui, pour moi, est essentielle. Et j'espère que. Voilà.
C'est certainement pas pour vous seul.
Je vous en remercie vraiment.
Merci.
Parce que ça a l'air de frustrer beaucoup de monde qu'on s'arrête. Encore quelques questions. Vous souhaitez qu'on s'arrête
pour, juste à
il y a un programme. Oui, mais plus on augmente le cas particulier, plus on fait de mécontents. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter.
Peut-être qu'il faudra que l'orateur vienne à notre église pour jouer la boulangerie.
Ah ben voilà. La réponse est une nouvelle invitation.
Bon, je vous explique pas, j'étais tellement reconnaissant de votre accueil et de la communion fraternelle, donc voilà, je suis assez pris dans les mois qui viennent, mais un jour, si Dieu le veut, si, qu'il nous prête à tous, la vie et l'occasion, ben, bien, moi je serais très heureux de vous revoir.
Merci, on se retrouve demain. Merci. Et donc, vous restez avec nous encore pendant quelques...
Voilà, oui,
pendant les temps plus ludiques, donc je pense qu'il sera... Voilà, vous pourrez poser des questions.